On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
On refait le monde à 19h31 sur RTL avec Joseph Massescaron, Philippe Bailly, Christian Menanto, Yvan Rioufol. On l'appelait le majordome ou le couteau suisse. C'est l'un des plus proches de François Hollande qui a démissionné aujourd'hui. Fawzi Lamdaoui était devenu son conseiller à l'égalité et à la diversité. Il a donc quitté l'Élysée aujourd'hui soupçonné d'abus de biens sociaux. Alors ses conseillers, ses proches, qui les uns après les autres sont obligés de partir, ça vous inspire quel commentaire sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Ça commence à faire beaucoup, soupir voyageur, comme tout Twitter ou presque, et Luc Dégrenet, Fawzi Lamdaoui, Kader Arif, Jean-Pierre Jouyet, Thomas Thévenoud, Aquilino Morel, Jean-Marie Le Guen, Jérôme Cahuzac, ça ne tient même plus en un seul tweet. Bertrand demande à l'Élysée, au prochain, vous gagnez quelque chose ? Il y a une explication rationnelle. J'ai l'impression d'assister à un suicide politique organisé. Bravo, elle est belle, la République exemplaire, applaudit Bader. On avait mal entendu, c'est la République exemplaire, corrige Valéria. Alors parmi les restants, que ceux qui n'ont pas trempé dans des magouilles lèvent la main, ça ira plus vite, propose Prolman. Mais Xavier souligne qu'avec toutes ces démissions, au moins on sait que la justice n'est pas instrumentalisée par le pouvoir, c'est déjà ça. Je préfère ceux qui démissionnent à ceux qui cherchent à tout prix à sauver leur tête tout en se sachant coupable. Un coucou l'UMP, lance enfin Steph, qui se console comme il peut.
Joseph Massescaron, finalement, est-ce que c'est pas les vertus et les bienfaits de la transparence ? Il y a plus de gens qui se font prendre dans les filets, mais il n'y aurait pas eu cette volonté de transparence, il n'y aurait pas tous ces départs. La transparence voulue par François Hollande.
Oui, on peut voir ça de cette manière-là. Vous avez
raison. Il faut bien que je vous lance.
Vous avez raison. Encore une fois, vous n'êtes pas ni juge ni partie. Vous êtes arbitre. Voilà. Non, on peut voir aussi le fait que la justice fonctionne absolument librement. Moi, ce qui me frappe, c'est, vous savez, de même que à Koh-Lanta, l'épreuve fatale, c'est les poteaux. Pour le quinquennat de François Hollande, l'épreuve fatale, c'est les poteaux. Voilà, mais les potes. Parce que très franchement, quand on voit les potes autour de lui qui tombent les uns après les autres, c'est absolument terrible. Je crois que il y a un parfum de chiraquisme là-dedans, parce que c'était très courant autour de Chirac, les personnes qui très souvent qui faillissaient, parce que. C'est des combines minables pour la plupart, très franchement. Je veux dire, quand on voit le dossier de Lamdaoui, c'est tout à fait minable. De même d'ailleurs que la personne qu'il avait exploité, Monsieur Mohamed Belaïd, puisque c'est de là dont parle l'affaire, c'est-à-dire ce chauffeur qui en fait n'était pas un chauffeur tout en étant un chauffeur et comme par hasard.
On va laisser faire la justice. Hein. Voilà, si on va démissionne laisser, aujourd'hui, oui. C'est parce que c'est justement pour laisser la justice travailler.
C'est pour laisser la justice
pour
travailler.
Pour la présomption d'innocence.
On a suivi un tout petit peu le dossier, si vous voulez, à Marianne. On a publié quelques normes, on a publié quand même quelques preuves quelque chose assez lourdes. Et d'ailleurs, M. Lamdaoui est intervenu par divers réseaux pour faire pression pour que le papier le concernant ne paraisse pas. Donc, très franchement, autour de ça, bien sûr, il y a un problème qui est fondamental. Je veux dire, moi, je crois que c'est un problème, d'abord, d'absence de décision et aussi d'impréparation, puisque, en fait, on voit bien que l'entourage de François Hollande était surtout fait de briques et de brocs.
C'est votre avis, Henri Fall ?
Moi, ça me suscite deux interrogations. D'abord, une interrogation sur le manque de vigilance de François Hollande, parce que ce n'est pas la première fois, ça a été rappelé, que son entourage est pris dans des affaires. Et j'observe que quand, en plus, on fait fonction de magistère moral, comme il est le représentant de cette gauche-là, il devrait faire attention aux gens qu'il nomme. Mais la deuxième interrogation qui me vient, c'est sur la qualité même, et qui est plus général, c'est sur la qualité même du personnel politique aujourd'hui. Je crois qu'on touche au cœur de la crise de la politique, parce que cela n'attire plus naturellement les gens les plus valables, cela attire souvent les ambitieux, souvent ceux qui veulent profiter des facilités du pouvoir, souvent ceux qui veulent profiter des corruptions que permet le pouvoir.
Quand vous dites souvent, c'est pas ce dont on parle, mais la grande majorité, c'est pas ça.
Souvent ceux. Je suis en train de vous dire que la grande majorité, la majorité aujourd'hui du personnel politique est un personnel politique qui ne tient plus la route à côté de celui qu'on a.
Justement, vous êtes en train de dire ça, mais moi je suis en train de vous demander si c'est la réalité. Ou est-ce que c'est pas simplement ce dont on parle parce que.
C'est ce que je suis en train de vous décrire. Oui, pour moi c'est la réalité. Et c'est une question à poser. Et en fait, et la troisième question serait de savoir si vraiment François Hollande a de la chance. Vous savez, Napoléon demandait avant de nommer ses généraux s'ils avaient de la chance. Là, visiblement, il n'en a pas.
Il n'a pas de chance, oui. Il est assez malheureux dans ses choix, c'est vrai. On peut lui reconnaître au moins une chose, il est fidèle en amitié. Tous ces gens-là ont cru en lui alors qu'il était à 2%, 3% dans les sondages. que tout le monde pensait que c'était un personnage secondaire de la vie politique. Ils étaient derrière lui, ils conduisaient les bagnoles, ils s'arrangeaient, ils faisaient tous les petits boulots qui nécessaires. Donc, le François Hollande les a récompensés. Mais moi, je crois surtout que ce sont des dommages collatéraux inéluctables. On est rentré dans une phase où la transparence va tous les jours être un tout petit peu plus aiguë et que tous ces petits arrangements, il y en a quelques-uns qui sont, Joseph le disait, assez minables, mais il y en a aussi de plus grands, ben, de nos élus, de la part de nos élus, tout ça va arriver, va émerger, va sortir au grand jour. Et moi, je
noterais juste... Vous ne pas des livres.
Oui, voilà. Bah, alors, il y en a un qui arrive. Monsieur Morel va sortir le sien.
Ça va avec le profil de ces politiques-là.
Voilà, c'est ce que je dis, il est malheureux dans ses choix.
Ils n'ont plus de morale, ils n'ont plus d'éthique.
Enfin, Morel n'était pas un proche-proche, hein, c'est un... Bon, bref. Mais je crois que maintenant, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que nous, les électeurs, on va jouer le jeu de ce regain de transparence? C'est-à-dire que quand on saura que des gens ont fauté, est-ce qu'on va continuer à les élire et les réélire?
Voilà. Réélu,
mais comme un empereur.
Ça ne change peut-être pas grand-chose, finalement, voilà, à la perception que les électeurs...
C'est Philippe la grande question.
Oui, effectivement, mais ce qui me dérange un peu, c'est l'amalgame qu'on fait et la masse qu'on fait de la liste impressionnante qui était donnée tout à l'heure, avec des histoires anciennes et plus récentes, avec des niveaux d'ampleur quand même très, très différentes dans les enjeux. En fait, si on reprend la liste...
Ce qui les rejoint quand même, c'est qu'ils ont tous quitté leur poste quand même.
Oui, mais si on reprend, Marco, la liste de noms qui a été égrenée tout à l'heure, le seul auquel on reproche quelque chose, ou en tout cas qui est inquiété aujourd'hui pour des faits commis depuis son entrée en fonction dans le quinquennat actuel, c'est Kader Arif, pour le contrat avec le ministère de la Défense. Tous les autres, c'est des faits anciens, souvent, parfois même très anciens, et commis, encore une fois, nettement avant. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, le paradoxe, c'est comme dans les statistiques de la délinquance. Je veux dire, à un moment, les chiffres qu'on publie, c'est le nombre de procédures constatées. Donc, soit ça veut dire qu'il y a plus d'infractions, soit ça veut simplement dire que la police et la justice sont plus efficaces.
Voilà, plus efficaces. Voilà. C'est difficile. C'est l'effet de la transparence, quoi. C'est ça.
Et le troisième aspect, c'est sur ce que disait tout à l'heure Yvan, de la qualité du personnel politique. Je pense qu'un des vrais torts des politiques, c'est d'avoir été depuis 15 ans dans une ligne de plus grande pente de réduction, de diminution régulière de leur rémunération, du fait qu'aujourd'hui un ministre est rémunéré moins de 10 000 euros par mois, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que l'essentiel des Français, mais qui est beaucoup moins que... qui le place au niveau d'un cadre sup lambda, alors qu'il est ministre de la République.
Cela devrait...
Et ça incite... parce qu'ils ne sont pas rémunérés au niveau des études qu'ils ont faites, des responsabilités qu'ils occupent, effectivement, du coup, on n'a pas forcément
C'est plus compliqué que ça. Nombre d'entre eux, les ministres sont là pour servir la République, ils ne sont pas là pour se servir. Or, maintenant, de plus en plus, enfin, pas de plus en plus, mais on voit souvent maintenant des ministres qui sont là pour se servir.
Le problème,
Joseph Massescaron,
je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser. Le problème n'est pas un problème global au personnel politique. Non, le personnel politique n'est pas corrompu, c'est pas un problème de corruption, c'est un problème de complicité.
Allez, à suivre, ils indiquaient sur Internet la localisation de radar, on leur supprime leur permis, on en débat dans un instant.